Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotop. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Merci également de nous rejoindre pour ce rendez-vous mensuel qui est Biotop. Aujourd'hui, une Biotop avec pour thématique l'économie sociale et solidaire. En présence avec moi sur le plateau, Alain Cantarutti, directeur de l'espace social et culturel du DIWA. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble aujourd'hui donc pour parler d'économie sociale et solidaire, un thème que nous avons choisi ce mois-ci puisque dans le DIWA, on a quand même un certain nombre d'exemples assez marquants qui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et justement, l'espace social qu'on va tout de suite appeler rapidement ESCDD, ça, comme on le dit tous ici, voilà, si on y arrive, ou espace social tout simplement. Et dans cette démarche d'économie sociale et solidaire, alors sur plusieurs types de points, à la fois en proposant un espace et des activités que des intervenants extérieurs peuvent mettre en place, mais aussi dans son mode de fonctionnement. Alors, en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cette structure ?
L'espace social et culturel du DIWA, l'espace social pour faire plus court effectivement, est une association. Donc à ce titre-là, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui est en fait un centre social. Alors, centre social, globalement, c'est un truc financé par la CAF en France et qui a une vocation qui est de faire de l'intergénérationnel, d'accompagner des habitants dans des initiatives, des questions, des problèmes qu'ils peuvent avoir et de développer plutôt une démarche démocratique sur le territoire. Donc l'espace social a cette vocation-là. Autour de donc deux idées un peu, c'est permettre à des gens de se rencontrer pour développer des solidarités sur le territoire. C'est pour ça qu'on fait des activités socioculturelles. Il y en a près d'une quarantaine dans tout le DIWA. C'est pour ça qu'il y a un centre de loisirs pour accueillir les enfants et répondre à des besoins de garde des familles. C'est pour ça qu'on travaille avec les adolescents, voilà, des espaces de rencontre qui génère de la solidarité, en tout cas, c'est dans cette dimension-là qu'on essaie de travailler. Et un autre axe qui est celui d'aider les personnes, d'accompagner les personnes pour qu'ils puissent développer leurs propres projets. Ce qu'on dit un peu dans notre jargon, développer le pouvoir d'agir, je trouve c'est joli. Voilà, permettre à des citoyens de mener des actions sur le territoire. Et là, on a une autre porte d'entrée qui est celle de permettre à des citoyens à la fois de mener leurs projets, mais aussi d'aller discuter avec des élus, négocier avec des élus lorsqu'il y a des projets qui nécessitent l'implication du territoire ou de l'argent public.
On a entendu l'aspect solidaire ou social que peut avoir donc l'espace social. Mais est-ce qu'on peut parler d'économie sociale quand on est une association ?
Bien évidemment, les associations, au même titre que les mutuelles, les coopératives et les fondations, sont des structures juridiques qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Je crois même qu'au niveau national, les associations sont le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, et effectivement, oui, on est des acteurs économiques au sens où on a des professionnels, au sens où on a des budgets conséquents, qu'on respecte les règles de l'économie sociale et solidaire et qu'on génère des flux sur le territoire, dans nos recettes, dans nos dépenses, et qu'à ce titre-là, on est bien des acteurs économiques. Je suppose que derrière la question, il y a l'idée que certaines associations sont subventionnées. Peut-on donc dire qu'ils sont des acteurs économiques ?
Mais... Il y a ça, et puis il y avait... souvent, quand on parle d'économie, déjà, on a la notion d'entreprise, peut-être, qui arrive assez rapidement derrière, la notion de générer un produit, être dans le marché, ce qui n'est pas toujours le cas d'une association.
Alors, effectivement, on n'est pas dans le marché. Un des principes de l'association, c'est bien le fait que... si une association peut faire un excédent, elle ne peut pas faire un bénéfice et elle ne peut surtout pas redistribuer le bénéfice entre ses adhérents. Donc à ce titre-là, on n'est pas sur le marché et on n'est pas une entreprise privée exactement comme les autres. Par contre, on est réellement une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et moi, en tout cas, ça me plaît de regarder une association qui a des salariés et qui a une action territoriale aussi de cette façon-là. Je pense que ce n'est pas encore mûr dans la culture associative, bien souvent, pour regarder la dimension économique. Je crois que si on regarde l'espace social du Diwa, on a une mission sociale au sens de création de liens sociaux, d'intervention sur un territoire. Il y a une visée économique, on génère effectivement des flux et on est un acteur économique. Il y a une visée politique, c'est-à-dire un projet politique qui est partagé en l'occurrence avec beaucoup de gens sur le territoire. Mais il y a bien une dimension et politique au sens noble, et sociale et économique. Et c'est ça qui fait aussi, me semble-t-il, la force d'un projet quand il y a toutes ces dimensions-là.
Et on peut peut-être aussi noter, ce qui est aussi important dans la masse d'activités proposées par l'espace social, que beaucoup sont en fait des activités générées par des intervenants extérieurs, des particuliers qui utilisent la structure pour se permettre une activité en fait, et que là il y a bien de l'économie qui est gérée puisque ces gens travaillent.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, l'espace social et culturel, il y a actuellement 10 équivalents temps plein et ça fait vivre dans le territoire plus de 15 familles, dans l'équipe permanente du centre social.
Voilà, là, on parle uniquement des salariés.
Des salariés. Après, on accompagne un certain nombre de projets qui sont des projets qui eux-mêmes ont des visées en partie économiques. Je pense par exemple qu'on a aidé, un des exemples que je cite souvent, mais parce qu'il est structurant, on a aidé au développement des haltes-garderies dans le Diwa, notamment celle de Châtillon, celle de Luc, celle de La Motte-Chalancon, qui sont des structures qui rendent un service social dans les cantons où ils sont. Donc à ce titre-là, ils ont une vocation sociale, mais qui sont des structures, en plus du service rendu, qui sont des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire et qui génèrent elles-mêmes des emplois. Donc dans nos accompagnements, on intègre le fait que, ben, ma foi, il n'y a pas que le service rendu qui coûte des sous à la collectivité, il y a aussi une vraie activité économique qui contribue au territoire. Et troisième volet dans ce que tu disais, me semble-t-il, c'est qu'on a un certain nombre d'animateurs, de personnes qui, parce qu'ils participent au projet du centre social et pour certains, ils sont rémunérés. Je pense à des animateurs qui font un certain nombre d'activités, par exemple, dans tout le Diwa et qui, aujourd'hui, essayent de consolider eux-mêmes un modèle économique grâce à leur activité, avec des supports associatifs. Voilà. Ça grouille de tas d'initiatives et toutes ces personnes-là qui sont impliquées avec le centre social et dans des associations bien souvent partenaires, créer des emplois, apporte du service sur le territoire et à ce titre-là, sont des acteurs économiques à part entière, certes fragiles, bien souvent. Alors là, il y a un vrai chantier à ouvrir encore.
Tu as effleuré la notion de projet commun justement entre toutes ces personnes. Alors ça, c'est peut-être le deuxième point dans l'économie sociale et solidaire, c'est que chaque personne qui fait partie du modèle économique est acteur en même temps de ce modèle économique et de sa décision. Comment ça se passe à l'espace social ?
Dans les associations et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on est sur un principe un peu fort et qu'on définit souvent par un homme, une voix. Néanmoins, je trouve que c'est un élément qui est complètement fondamental, c'est-à-dire que si aujourd'hui, à l'espace social, il y a un directeur, il y a un conseil d'administration, il y a près de, je crois, une soixantaine de bénévoles qui chaque semaine interviennent, il y a des salariés, comme je le disais, etc. Au moment de l'Assemblée générale, quand on refait notre projet, etc., eh bien, ma foi, chaque personne est impliquée et a un pouvoir identique. C'est quand même ce qui change tout. C'est-à-dire qu'on est sur une gouvernance, excusez-moi le gros mot, mais une démocratie très collective et que c'est un des principes fondateurs de toute association. La nôtre, bien évidemment, est dans cet esprit-là. Ce qui ne signifie pas que tout le monde a le même pouvoir. Mais ça, je crois que c'est souvent dans les associations, on avait aussi un peu cette idée-là. Après, il y a l'Assemblée générale confie des responsabilités au conseil d'administration, qui lui-même en confie au bureau, qui lui-même délègue une partie de son pouvoir au directeur, etc. Donc voilà, il y a des partages de pouvoir, mais pour décider les orientations, pour décider la ligne politique, chacun est à égalité. Et ça, quand même, c'est quelque chose de fondamental dans une association comme la nôtre, et normalement comme dans toutes les associations.
Voilà, c'est un peu le lot de toutes les associations. Mais alors, donc, on a bien à la fois des gens qui utilisent le service, on a les gens qui proposent différents services, on a donc ses salariés, on a éventuellement le directeur, évidemment, on a un bureau qui est extérieur, parfois constitué de personnes qui sont soit en affinité avec la structure, mais pas forcément utilisateurs. Comment toutes ces personnes arrivent à se marier, à véhiculer des intérêts qui sont les leurs, et puis en même temps toutes les valeurs et toute l'éthique de cette association?
La question de cette gouvernance, nous au Centre social, ce qu'on considère, c'est que ce n'est pas du temps perdu que de prendre du temps pour débattre, que ce n'est pas du temps perdu que d'essayer de se mettre d'accord à plusieurs, qu'au contraire, c'est tout le fondement d'une structure telle que la nôtre. On ne cherche pas l'efficacité avant tout, ou en tout cas on considère que l'efficacité du temps démocratique amène à quelque chose de bien plus durable et de bien plus fort. Voilà, on pourrait très bien avoir que deux personnes, un directeur, qui décide tout, qui met en œuvre, et a priori ce serait bien plus efficace. Mais il nous semble que ce serait bien moins durable, bien moins humain, et au final, certainement, ça produirait des choses de moins bonne qualité dans le travail. C'est parce qu'on prend le temps du débat en interne, de négocier entre des bénévoles, des administrateurs, avec des partenaires, avec les salariés. Parce qu'on prend le temps d'accepter qu'un système est complexe, que, ma foi, on produit des choses qui, je pense, ont certainement un poil plus de sens. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Parfois, on se trompe aussi, bien sûr. Et qu'on produit des choses qui sont certainement plus durables. Je vais reprendre l'exemple de la halte garderie qu'on a accompagnée. Si on avait fait appel à des personnes extérieures, des experts à qui on aurait commandé une étude, on leur aurait dit « faites-nous une halte garderie, mieux possible et moins cher possible, on amène ça devant les élus décident, on met en œuvre ». On aurait peut-être eu quelque chose, peut-être même d'intéressant. Sauf que là, on a travaillé avec les parents, les usagers qui ont des besoins, on a travaillé avec les élus qui ont des contraintes, des envies, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires qui sont du métier, de l'enfance, etc. On a pris le temps de que toutes ces entités-là dialoguent, se mettent d'accord, négocient des intérêts réciproques. Et on est arrivé, et me semble-t-il, à quelque chose qui aujourd'hui coûte moins cher à la collectivité, parce que les citoyens, les élus, etc., ont intégré le fait cette dimension-là. Et certainement quelque chose qui, en termes de gouvernance ou de projet, est certainement plus durable, parce que ça répond vraiment aux besoins des habitants. Donc voilà, on a pris le temps de la démocratie. Et à la fin, je crois qu'on y gagne. Donc investir sur cette dimension-là, et certainement, alors là j'en suis intimement convaincu, c'est pour ça que je travaille dans un centre social et que je m'implique sur ce champ-là, mais j'ai des exemples chaque jour où le temps du débat, le temps de la négociation collective amène à des choses bien plus durables et bien plus solides, démocratiques au final sur les contenus que lorsqu'on ne le fait pas.
C'est un peu également ce qui va ressortir des deux petits reportages qu'on vous proposera par la suite, cette notion de temps en fait, qui est ce point commun à une économie sociale et donc solidaire. Donc on prend le temps de réfléchir, de faire les choses, voire même d'introduire un maximum de personnes dans le projet, d'une plus grande inertie, mais qui en même temps permet de ne plus avoir de problème derrière, où tout le monde est tout à fait d'accord. C'est un peu ça qui est...
Je veux rajouter un dernier élément qui me semble aussi fondamental sur la question d'une association en tant qu'acteur économique. Juste deux, trois petits critères que j'aimerais apporter là-dessus. On peut comprendre qu'une SCOP qui génère le Chaiwala, que je connais bien évidemment, qui génère un chiffre d'affaires de par la vente de tous ces repas, etc. On voit bien, c'est un restaurant, et on voit bien qu'il est sur le champ de l'économique.
C'est plus simple, voilà. Ce que je disais tout à l'heure.
Deux, trois petits éléments qui, moi, montrent aussi qu'une association, même si elle touche des subventions, est aussi un acteur économique. Le 1, lorsque la collectivité, qu'est la communauté de communes, investit 1 euro dans le centre social est en capacité d'en générer 3 supplémentaires. Donc on démultiplie les moyens grâce aux financements complémentaires qui sont apportés par la CAF, qui sont apportés par le Conseil Général, et les recettes propres que nous générons par les activités qu'on vend, puisqu'on a aussi une partie de vente de prestations. Ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième, qui est vraiment fondamental sur la dimension solidaire et sociale, c'est que lorsque le centre social anime un atelier d'accompagnement scolaire, tous ces gamins qui se remettent un peu en route parce qu'ils ont bénéficié d'une solidarité, parce qu'il y a des bénévoles qui les ont accompagnés, etc., et certains économistes le prouvent aujourd'hui, coûtent bien moins cher à la société au final lorsque un centre social a de façon, on va dire, préventive, pour utiliser un mot qu'on utilise souvent, accompagner des gamins qui à un moment étaient un peu en galère, ben, ces gamins-là, s'ils se remettent en selle, le coût global pour la société est largement inférieur au coût d'un gamin qui est en échec scolaire et en rupture scolaire. Et je crois qu'on peut regarder l'économie avec ce que ça coûte et ce que ça rapporte.
De manière immédiate.
De manière immédiate. Voilà. On peut regarder aussi la dimension économique en se disant qu'est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale comme le centre social, qu'est-ce que ça génère pour la société d'un point de vue général, et avec effectivement un peu plus de recul. Et là, j'ai pris l'exemple de l'accompagnement scolaire, mais on fait de l'atelier de français, le travail d'accompagnement des habitants qui sont face à des problématiques de logement, qui sont face à des problématiques d'emploi, de précarité, etc. Tous ces dialogues et tous ces projets et tous ces groupes accompagnés génèrent aujourd'hui et de la solidarité et permettent à des personnes de se remettre en route individuellement et collectivement. Et on est dans une société qui, globalement, va bien mieux lorsqu'il y a ça qui se passe que lorsque ça ne se passe pas. La casse sociale est bien moins importante. Et derrière, eh ben, j'ai envie de dire, on a fait gagner des sous, si on reprend la vision plus de l'économie libérale classique, on a fait gagner des sous à la société lorsqu'on est sur cette approche-là. Je crois que c'est aussi ça qu'il y a derrière des valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on peut faire de l'économie autrement et pour le coup contribuer à une société qui doit apprendre à se regarder un peu autrement aussi, quoi. Merci de m'avoir laissé dire ça, monsieur Baptiste.
C'est très important. Justement, pour illustrer, on va passer un petit temps, une petite quinzaine de minutes avec Simon, donc, qui est un des cuisiniers du Chaiwala, qui lui va nous présenter donc, ce restaurant qui est sous la forme d'une scop. Et puis on réagira après. En compagnie de Simon. Simon, tu es le cuisinier du Chaiwala. Et puis on va se tutoyer tout de suite parce qu'en fait, on se connaît bien. Un moment que tu viens aussi à la radio pour plein d'autres sujets. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment fonctionne le Chaiwala.
Alors juste pour te corriger un petit peu, je suis un des cuisiniers parce qu'en fait, actuellement, on est trois cuistots au restaurant qui a bougé d'Andy à plusieurs reprises. En fait, exactement à deux reprises. Au départ, il était assez proche de la cité scolaire du Diwa. Et aujourd'hui, le restaurant se trouve dans une petite rue à proximité de la cathédrale.
Dans la rue Joseph Reynaud, voilà, à côté Joseph de chez nous.
Oui, alors effectivement, c'est un restaurant qui commence à faire partie intégrante du paysage Diwa, parce que ça fait quelques années maintenant que ça existe, ça fait 9 ans. Et il a donc plusieurs particularités. Donc effectivement, c'est un restaurant 100% végétarien, 100% biologique. Et de travailler au maximum les produits locaux. Donc deux saisons. Hein. Donc au niveau de la forme juridique, la particularité du restaurant, c'est une SARL coopérative, en fonctionnement coopératif. Donc ça...
Excuse-moi, ça a immédiatement été créé comme ça au départ ?
Voilà, en fait au départ, c'est donc plusieurs personnes, des femmes précisément, qui ont émis le souhait de créer en fait leur emploi, de créer un lieu donc sympathique qui corresponde à leurs valeurs, de gérer ce lieu de façon collégiale, enfin coopérative. Et à la fois de créer des postes à temps partiel, parce que c'était donc des femmes qui avaient des vies de famille assez chargées, des enfants. Elles savaient qu'en restauration, il y avait un travail assez conséquent sur des temps pleins. Et donc, elles ont trouvé que la SARL coopérative leur permettait de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
Voilà, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a trois cuistots. Il y a aussi un certain nombre de gens qui sont en salle. Enfin, il y a une équipe qui est relativement importante.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, en fait, on est six salariés. Et il y a plusieurs salariés qui sont donc associés de la même façon que peuvent s'associer des personnes qui montent une SARL. Hein. C'est vraiment la même définition de l'association. On partage entre associés les décisions. C'est une gestion un petit peu différente de ce qui se fait dans la plupart des restaurants traditionnels où il y a une hiérarchie très forte à la fois dans la cuisine et à la fois en salle.
Le chef cuistot, le patron.
Voilà, le chef cuistot qui peut des fois être le patron, le maître d'hôtel donc qui est le responsable de la salle, les chefs de partie, les commis, le plongeur. Bon voilà, il y a toute une hiérarchisation, notamment en cuisine. Et là, en fait, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, donc, on est six, mais on est tous sur des temps partiels. On tourne aux différents postes. Donc, il y a trois cuisiniers qui tournent sur le poste de cuisine. Il y a trois serveuses qui tournent sur le poste de service. Et donc, au final, on se retrouve à ne pas souvent travailler ensemble. C'est-à-dire que les cuisiniers, on travaille à tour de rôle. On rencontre les trois serveuses, mais par contre, on ne travaille pas beaucoup avec les autres cuisiniers, puisque voilà, le jour où l'un travaille, l'autre est en repos. Ça nous permet du coup de dégager un petit peu de temps pour nous et aussi pour garder les idées fraîches en fait, avoir toujours des idées et être motivé pour cuisiner des choses intéressantes. Parce qu'il y a une autre caractéristique donc, du restaurant, c'est qu'on essaye toujours de proposer un menu différent. Donc chaque service, on fait des choses différentes. On essaye à chaque fois voilà, de réouvrir les livres de cuisine, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Voilà.
Alors pour revenir juste vraiment sur notre sujet, d'un point de vue purement juridique, une SARL coopérative en termes d'économie sociale et solidaire, justement, quelle est sa particularité ?
C'est que c'est la même forme juridique donc une SARL avec des contraintes identiques en termes de création. Mais la différence, c'est que à la place d'avoir deux, trois associés et puis des salariés, là, il y a une gestion vraiment coopérative, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que généralement, et nous, c'est ce que tend à devenir la structure, toutes les personnes qui travaillent dans la structure, au bout d'un certain temps, deviennent donc associés.
Alors, quel est ce temps ? C'est eux qui le choisissent ou c'est la SARL qui le fixe ?
Alors déjà, il y a un temps qui est fixé par, de fait, par la fréquence des assemblées générales, donc qui est une fréquence de 1 an. Donc, ça, c'est assez simple. La personne qui émet le souhait de devenir associé, pose sa candidature, demande. Mmh. Sa candidature est examinée par les associés et ensuite on décide si oui ou non on autorise la personne à rentrer dans la structure. C'est généralement le cas puisque à chaque fois que on a toujours été en phase, disons, avec les gens qui ont émis le souhait de devenir associés, ils ont toujours pu le faire. Donc la fréquence, pour répondre plus précisément à ta question, c'est au moins 1 an en fait, hein, parce qu'il faut avoir fait le tour du cadran pour arriver à l'Assemblée générale, l'examen de la candidature et puis le passage de salarié à associé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour devenir associé, il faut être salarié. On peut être associé de la structure sans être salarié. C'est un peu compliqué. Il faut avoir été salarié un temps pour demander à passer associé.
D'accord, c'est-à-dire que les anciens qui ne travaillent plus restent associés.
Voilà, les anciens qui ne travaillent plus peuvent rester associés à la structure. Mais par contre, pour devenir associé, il faut avoir un contrat, donc soit un CDI, soit un CDD. Il y a des termes qui font qu'on peut devenir oui ou non associé. Par exemple, un saisonnier ne peut pas devenir associé de la
D'accord.
structure.
C'est là qu'on entend vraiment bien le côté économie sociale et solidaire. On est obligé de travailler quand même dedans et donc de faire partie intégrante du projet.
Voilà, il faut faire partie intégrante du projet. De toute façon, nous, justement, contrairement à des SA, par exemple, ou des sociétés par action, on n'a pas du tout envie d'ouvrir la gestion de la structure à des gens qui ne travaillent pas dans la structure. Mmh. Même le fait d'être intéressé par la structure, pour nous, ça ne suffit pas à valider une candidature.
Ouais, on pourrait être le meilleur client et pour autant, on ne pourrait pas rentrer.
Voilà, donc ça, on pourrait l'étudier, mais ça m'étonnerait qu'on valide. Parce que nous, l'objectif, c'est vraiment de participer donc, au travail pour se rendre compte effectivement du travail qu'il y a à faire. Et là, ensuite, on se dit que ça devient logique de participer aux décisions. C'est vrai que quand on entend à la radio ce qu'on appelle les boards, c'est-à-dire les réunions d'actionnaires qui décident de ce qu'il faut faire, sans connaître quelquefois la réalité du travail de la masse de salariés, nous, c'est pas du tout cette dynamique. Au contraire, on veut que les gens soient impliqués dans la structure, travaillent dans la structure et en plus aient quelques mois, voire quelques années d'expérience pour pouvoir décider en toute connaissance de cause.
Un autre point très important quand on en parle d'économie sociale et solidaire, c'est les conditions de travail. Alors tu l'as un tout petit peu abordé, cette notion de turnover régulier, de temps partiel qui en même temps favorise un grand confort à la fois pour l'esprit et la réflexion, mais aussi sur le plan physique. Quels sont les autres points que tu trouves importants au Chai justement ?
Ce qu'il y a et qui est intéressant aussi pour nous au restaurant, et c'est parce que c'est un travail de restauration, c'est qu'on a une souplesse dans les emplois du temps aussi. Vu qu'on est plusieurs à porter la responsabilité de la cuisine, si un jour quelqu'un est malade, on peut laisser donc la structure ouverte et demander à un collègue de remplacer la personne, ce qui est un grand confort puisque moi j'ai travaillé dans des restaurants où j'étais quasiment tout seul au poste de cuisinier et j'ai pas été malade, mais disons que si j'avais eu à m'absenter, le restaurant aurait dû fermer donc là ça c'est une grande souplesse pour la structure et aussi pour nous parce que on peut avoir besoin de 4 ou 5 jours d'affilée, par exemple, dans une période donnée. On peut s'arranger avec les collègues. Donc, c'est vrai que le fait de partager le poste à temps partiel, ça donne ce confort. Et effectivement, les gens qui font le choix de travailler en SARL coopérative avec des emplois du temps aménagés ont ce confort de travail généralement. C'est sûr que quand on est à temps plein, on ne peut pas absorber la charge de travail d'un autre temps plein et passer à double temps. Déjà, légalement, ce n'est pas possible. Et en plus, concrètement, ce n'est pas raisonnable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des salariés qui sont pleinement investis puisqu'ils participent aux décisions. On a rarement de conflits internes dans lesquels on se dit « Oula, on fait ci, moi je suis, ou ça, et je ne suis pas d'accord avec tout ça » puisque toutes les décisions sont validées en réunion. Imaginons, pour être plus concret, on ouvre un soir exceptionnellement pour un concert, on l'a validé en réunion, donc tout le monde sait que la majorité des associés a voté pour ça, donc on se plie à...
Il n'y a pas d'employé qui va dire « Oui, moi je ne voulais pas... »
Voilà, à la limite, un salarié peut dire « Moi, je ne voulais pas », mais vu qu'en rentrant au Chaiwala, on adhère à, entre guillemets, ce fonctionnement démocratique, on sait que si on fait la soirée, c'est parce que la majorité des personnes se sont prononcées pour. Alors qu'effectivement, dans d'autres types de structures, on a quelquefois un patron qui peut avoir sous ses ordres 30 personnes, hein, par exemple, dont je parle dans un restaurant, et le patron qui dit « Bon, à partir de maintenant, on ouvre les dimanches ». Mais si les salariés sont contre, bon, ils peuvent faire la grève, ils peuvent
démissionner
peut-être. Mais quelque part, il peut y avoir ce genre de conflit qui démarre. Alors que là, dans le cadre d'un fonctionnement comme ça, coopératif, toutes ces décisions sont débattues et validées en réunion.
On peut prendre un autre exemple peut-être aussi en termes de matériel, un nouveau matériel à acheter, on s'imagine que la réaction est beaucoup plus rapide par exemple.
Eh ben, c'est pas évident justement, ça c'est une des contraintes de la démocratie par rapport à la dictature. Il y a pas mal d'inertie puisqu'il faut aller consulter, il faut débattre, il faut convaincre et ensuite il faut voter. Et là, c'est pas fini.
Non, mais imaginons en cuisine un matériel qui vraiment, je sais pas moi, un robot qui permettrait d'aller un petit peu plus vite pour râper des carottes, j'en sais rien. Ça prend pas quand même moins de temps que si tu étais salarié. Il faudrait que tu justifies que le patron, en plus, lui a pas particulièrement envie de l'acheter.
Alors là, effectivement, si un jour on a un matériel défectueux ou un besoin en cuisine de matériel, là, dans cet exemple concret, sans problème, on va le faire valoir et automatiquement, on va investir ou remplacer le matériel défectueux. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus acteur de l'investissement dans le restaurant, c'est sûr. Mais par contre, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ouvrir un soir à un groupe qui veut faire un concert, il va falloir qu'on se réunisse pour décider si oui ou non on est d'accord. Déjà un accord de principe, parce que le groupe peut être, par exemple, politiquement affiché. Donc il va falloir en débattre, il va falloir convaincre ceux qui ne veulent pas, s'il n'y a pas une majorité absolue, enfin s'il n'y a pas une unanimité, pardon. Et ensuite voter, alors que dans le cadre d'une SARL classique, le patron accepte ou pas immédiatement. Quoi. C'est-à-dire que c'est de son simple ressort. Je ne dis pas que c'est une tare pour le restaurant. Au contraire, c'est ce qui fait toute la force de la structure. Mais disons qu'il faut bien savoir que le fonctionnement démocratique de la structure apporte une inertie dans les décisions. Pour ça, on est obligé de, et on le fait avec plaisir, mais de se réunir régulièrement, de rédiger des comptes rendus de réunion, de s'y référer à chaque fois que on se repose des questions sur ce qui a été décidé. Et donc, quelque part, c'est une charge de travail supplémentaire. Mais à la fois, c'est un avantage parce que toutes les personnes sont intéressées à la prise de décision et donc, quand elles vont travailler, elles ont un comportement responsable et actif au niveau de la structure. Contrairement à certaines autres structures où il y a d'un côté les décisionnaires et de l'autre côté les exécutants quoi, qui se plient aux décisions et qui, quelquefois, ont du mal à comprendre pourquoi on leur impose tel ou tel choix. Quoi.
Tu emploies le mot inertie, mais en fait, c'est plus une question d'éthique.
On est, guidé par des choix précis. Et qui ne sont pas forcément des choix de rentabilité exacerbée, des choix de vitesse d'exécution en cuisine. Disons qu'effectivement, on essaye d'avoir une éthique dans l'achat des matières premières, dans le travail des produits, dans la valorisation et la vente de nos assiettes. Et aussi, on essaye d'avoir un confort de travail et une éthique aussi dans la gestion du personnel. Et pour nous, la meilleure façon de bien gérer son personnel, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de les faire participer aux décisions et que ce personnel en fait devienne dirigeant. Quelque part, on peut imaginer que la vocation du Chaiwala, c'est de faire rentrer des gens dans la structure. Enfin, on essaye de stabiliser la structure, et c'est le cas depuis quelque temps. Mais tous ces gens, on les voit plus comme un ensemble de dirigeants qu'un ensemble d'exécutants en fait. De travailler tous ensemble à ce poste de gestionnaire de la structure.
On a donc une gestion de restauration commerciale type, et puis à côté, on a une gestion qui se rapproche plus de la gestion associative, donc avec un conseil de personnes qui se réunit et qui font des rapports et ce genre de choses. Alors, est-ce que ces rapports sont ouverts à tout le monde ? Est-ce qu'ils sont consultables, comme ça peut être le cas d'une association ?
Alors non, nous, effectivement, on ne s'est jamais vraiment posé la question, mais les rapports... dont tu parles, c'est souvent de réunions ou alors des notes internes sur telle ou telle partie du fonctionnement. Donc ça, on le garde en interne parce qu'on n'est pas sûr que ça intéresserait les gens. On mentionne un petit peu nos façons de procéder dans la carte et dans les documents qu'on laisse aux clients au restaurant. Mais non, c'est effectivement, comme tu faisais le rapprochement, c'est pas des notes qu'on met par exemple en ligne ou de façon à ce que les gens puissent consulter sur Internet ou... Mais c'est pas une volonté de cacher notre fonctionnement, c'est plutôt qu'on n'est pas sûr que ça représente un réel intérêt. Pour ça, justement, juste pour finir, on est assez ouvert donc aux gens qui viennent nous voir en nous disant on a envie de monter une SARL coopérative. Donc c'est pour ça, je pense que c'est là où tu voulais en venir. Et là, quand il y a ces gens qui viennent nous voir, effectivement, on a aussi cette vocation d'essaimer un petit peu. Alors on va pas les chercher, mais s'ils viennent à nous, on leur accorde du temps. Donc par exemple, là, concrètement, il y a des gens qui sont venus de Bretagne en repère. Donc la structure sur le site internet du restaurant, ils sont venus à Die et on a passé du temps avec eux à leur montrer le fonctionnement, à leur expliquer un petit peu donc les difficultés qu'on rencontre au quotidien, les avantages à tous les niveaux, hein, que ça soit sur les aspects fiscaux, les aspects management du personnel, recrutement, gestion, et ça effectivement on prend le temps vraiment d'aider les gens à comprendre le fonctionnement de la structure et à monter leur propre structure si ils sont intéressés par le fonctionnement coopératif.
Vous acceptez ce rôle d'éducateur populaire là-dessus ?
Alors aujourd'hui, on l'accepte parce que voilà, ça nous intéresse de parler de notre expérience et on l'accepte volontiers parce qu'il n'y a pas non plus tous les jours des gens qui viennent nous voir parce que ça prend quand même du temps.
Dernier point, le Chaiwala organise pas mal de stages, des stages cuisine notamment. Et est-ce que dans le cadre de ces stages, vous en profitez aussi pour glisser la philosophie et le fonctionnement propre du restaurant ?
Oui, je pense que quelque part, on le fait sans que ça soit planifié au départ. Hein. On ne définit pas, quand on met en place les stages...
D'un temps spécialement dédié à l'explication de la structure.
Mais c'est vrai que là, on y vient toujours, en fait. Les gens qui viennent posent des questions, parce que par exemple, il y a celui qui va s'occuper du stage de cuisine qui va être secondé de quelqu'un qui va venir prendre des photos, ou qui va venir goûter le repas pour donner un petit peu de stress aux participants du stage pour qu'ils cuisinent pour quelqu'un d'extérieur. Ou effectivement, là, les questions viennent d'elles-mêmes. Ah oui, vous êtes plusieurs, comment ça fonctionne ? C'est vrai que les gens sont très curieux et là, on répond aux questions. Mais dans un temps qui, généralement, est assez court, on ne se donne pas le temps d'emblée quoi, d'aborder ces questions.
On ne planifie pas un temps
voilà,
pour ça.
Voilà, c'est ça. On ne planifie pas le temps au départ, mais par contre, on consacre du temps à tous les gens qui nous posent des questions sur le fonctionnement de la structure. Mais de toute façon, les gens qui ont déjà mis les pieds dans des cuisines conventionnelles, quand ils rentrent au Chaiwala, ils voient assez vite qu'il y a des choses différentes. Quoi. Ils ne trouvent pas de congélateur, ils trouvent des frigos remplis de légumes. Et effectivement, ça attire l'attention des gens qui ont déjà mis les pieds en restauration. Donc là, d'entrée, les questions fusent. Comment vous travaillez? Comment vous garantissez
l'hygiène, tout ça.
Voilà, l'hygiène. Comment vous travaillez vos produits? Comment vous assurez de ne pas avoir trop de pertes? Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des façons de gérer le stock qui sont différentes par rapport aux restaurants qui ne travaillent que des produits congelés, quoi, par exemple.
Merci Simon, à bientôt.
À bientôt.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Retour en plateau en compagnie d'Alain Cantarutti, je le rappelle, directeur de l'espace social et culturel du DIWA. Une petite réaction, là, on discutait un petit peu en antenne de cette notion qui est assez forte, là, décrite par Simon, de débat interne, de longueur du débat, on a un petit peu abordé tout à l'heure, et donc de cette possibilité de trouver des consensus un peu constamment, simplement parce qu'on est en train de discuter avec des intérêts personnels qui sont parfois pas les mêmes.
Je trouve que c'est assez exemplaire, le témoignage de Simon là, du Chaiwala est vraiment très intéressant. Il montre bien toute la complexité de la chose dans la discussion collective et que néanmoins ça transpire, c'est que cette discussion collective, elle crée du sens déjà. Enfin voilà, après, c'est pas toujours facile. Et c'est dit aussi, pas toujours facile de tomber d'accord, etc. N'empêche que, déjà, ce qui transpire, c'est que cette dimension collective-là, elle crée du sens. Il y a une vraie plus-value en termes de sens. Là, il y a des gens qui se posent des questions et qui font avancer des choses. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que souvent, on a la vision que si c'est du collectif, ça va être au détriment des intérêts ou des envies ou de ce que pensent les individus. Quand je disais un peu hors antenne, effectivement, qu'il me semble que ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre à débattre, c'est qu'à un moment, parce qu'on est dans une gouvernance collective, Ça ne signifie pas qu'on doit faire ça au détriment de ce qu'on pense personnellement, qu'on ne doit pas aller de façon contrainte dans des décisions qui sont prises collectivement. Et pour ça, apprendre à débattre, ça veut aussi apprendre à redire quels sont nos intérêts individuels. Il n'y a pas de mal à avoir des intérêts personnels. Si on a peur de dire, ben, moi, j'attends ça, je pense ça, je souhaite ça, et si on apprend à poser ça, et que tous les membres d'un collectif apprennent à poser leurs intérêts individuels, on peut en tenir compte pour construire un intérêt collectif. Et il me semble que ce n'est pas tout égoïste d'un côté et que des intérêts individuels qui doivent prévaloir et qui doivent prendre le pouvoir. Ça, ça ne fonctionne pas et on voit bien les limites de ce système-là. Mais qu'à l'opposé, il ne faut absolument pas que ce soit non plus un espèce de collectif qui enlève tout individualisme
et toute personnalité.
Voilà. Et c'est bien accepter que dans une gouvernance collective, dans une négociation, il y a à la fois, chacun vient avec ses limites, ses envies. Même s'il est dans un projet collectif qui partage des valeurs, il a aussi ses valeurs à lui. Et que c'est bien de la richesse, accepter cette complexité-là, de marier des intérêts individuels et un intérêt collectif qui peut donner du sens et qui... Sinon, on passe en force. Si c'est tout collectif, on nie les individualités et on se plante. Et si c'est uniquement des rapports de force dans lesquels, uniquement, parce que parfois il y a des rapports de force et ça fait partie de la vie, mais s'il n'y a que des rapports de force qui nient les individus, on n'y arrive pas non plus. Donc c'est un joli challenge que de réapprendre à débattre.
Et du coup, quand même, tous ces exemples-là d'économie sociale et solidaire, que ce soit l'espace social, le chai ou tout à l'heure on va parler de la Carline, ont ce point commun qui est que les personnes qui en font partie ont un point commun, ont une idée commune de ce que doit être la structure dans laquelle ils s'investissent. Ok, pour ne pas être un mouton tout le temps, mais il y a un moment donné où parce que le collectif prend la décision à la quasi-unanimité ou en majorité prend une décision, il y a une personne qui peut quand même se retrouver frustrée à terme, oui, non ?
L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas Disneyland, mais c'est la vraie vie aussi. Donc, il y a besoin, dans un projet collectif, d'un socle commun, d'une intention commune, d'une visée commune, d'une utopie commune, de valeurs communes. Voilà, il y a besoin de ça. Et effectivement, il n'y a pas de mal à ce que dans un collectif, si quelqu'un ne s'y retrouve plus, que cette personne ne soit plus dans le collectif. C'est la vie. Il ne faut pas que ça devienne une dictature où on est obligé toujours d'arriver à tous tout faire ensemble et être d'accord sur tout. Ce n'est pas ça la vie. Il y a parfois des rapports de force, il y a des désaccords. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à poser des désaccords, de les identifier. Et quand on a du sens, je reprends la scope du Chaiwala, ils discutent vraiment sur le sens entre eux. À un moment, ça me semble... S'il y a des désaccords, quand on a bien discuté de ce qu'on partage ou de ce qu'on partage pas, c'est plus facile à identifier. Et pour le coup, si on accepte de se séparer, on a peut-être des chances de se séparer sur un désaccord de fond, ce qui n'est pas grave, et d'éviter éventuellement le truc qu'on trouve quand même bien souvent, c'est-à-dire des problèmes de personnes qui arrivent sur des conflits qui sont plutôt bien souvent stériles. La qualité du dialogue, elle peut aussi... ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord, mais ça veut dire que quand on est en désaccord, on peut l'identifier, on peut accepter de se séparer. Dans la vie, on n'a pas une obligation à être toujours tous ensemble et à être d'accord sur tout. Au contraire, ça me semblerait un peu triste si c'était ça la vie, quoi.
On serait déjà un peu cloné, peut-être.
Peut-être.
Alors, je propose qu'on prenne une petite pause musicale. Ça se fait, ça va faire une bonne trentaine de minutes qu'on est dans la discussion non-stop. Avec déjà une collaboration, je ne sais pas si c'est social ou solidaire, un morceau proposé par Marvin Gaye en collaboration avec Pink Floyd. À tout de suite.
Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. One more time, baby. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. I'm just a servant kind of fella. Got my mind made up to love you. Wow! So yeah, yeah, yeah.
Quelle fin abrupte, on s'en remettra. Voilà, donc c'était une collaboration étonnante entre Marvin Gaye et Pink Floyd. Le titre s'appelait Stubborn Kinderfellow. Toujours en compagnie d'Alain Cantarutti dans cette émission Biotope consacrée à l'économie sociale et solidaire. Donc Alain Cantarutti, directeur de l'espace social et culturel du DIWA. Je te propose d'écouter le deuxième sujet qui est le sujet de la Carline, qui est une SIC, c'est un autre modèle économique, dans lequel d'ailleurs tu es cité, puisque tu as participé en tout cas à ce que la Carline passe du statut associatif au statut de SIC.
Il s'avère qu'il y a 4-5 ans de ça, au moment où la Carline était associative, l'espace social a accompagné l'association à un moment où il y avait un peu une difficulté à se mettre d'accord collectivement, et c'est un peu quelque chose qu'on essaie de faire au niveau du centre social, c'est dans les collectifs d'aider un peu lorsque soit il y a des problèmes, c'était le cas à ce moment-là, soit lorsqu'il y a des projets nouveaux qui arrivent. Et voilà.
Donc en on se passant a comme médiateur souvent
Accompagnateur un peu, animateur de la discussion. Voilà, on vient juste en proposant des outils, on n'intervient pas sur le fond, mais on aide les gens à discuter entre eux pour trouver leurs solutions ensemble. Quoi.
Donc, petit témoignage concernant la Carline en compagnie de Roger, le directeur dont j'ai oublié son prénom.
Gilles,
et puis Mélanie, une productrice.
Je suis avec Gilles Chabanet, directeur de la Carline, Roger Gaillard, qui était historiquement le premier salarié de la Carline, et Mélanie Falco, qui est, avec son mari Pierre, installée à Minglon, qui produit des légumes maraîchers et qui fournit la Carline. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Roger, tu es la mémoire de la Carline. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite genèse de la Carline ?
Donc en 1989, autour d'un groupement d'achat de personnes pour les produits alimentaires biologiques, en association, jusqu'à l'année 2008, fin 2002, la Carline couvrait les besoins de 280 foyers adhérents à l'association. Et à partir de ce moment-là, les produits n'arrivant pas dans le local trop petit, Alain Cantarutti nous a, au cours d'une assemblée générale, nous a fait travailler sur le devenir de la Carline. Et à partir de là, le projet de trouver un local ouvert plus souvent et avec salariés éventuellement a débouché. Et là, un conseil d'administration s'est mis en place à suite de ça et le projet s'est créé, mais toujours sous le mode associatif. Avril 2003, j'ai été donc le premier salarié. Et le projet s'est monté autour de ma situation de licencié économique. Et donc, on a eu des aides d'État pour monter le disons prévisionnel et la partie économique. Je suis rentré sur un 3/4 temps. Ensuite, deuxième salarié en juin 2003. 2005, troisième salarié est engagé. En 2009, là, quatrième salarié. Et donc, le local rue Barnaud étant trop petit, on avait aussi à cœur de promouvoir les produits locaux. Donc là, à nouveau, on a réfléchi un peu sur le devenir de la Carline. En 2008, un nouveau conseil d'administration s'est mis en place et a porté le projet de la structure actuelle. Donc fin 2008, on quitte le statut associatif pour adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif en société anonyme, donc une SIC. Jusqu'en 2002, rue du Faubourg Saint-Antoine, c'était uniquement des bénévoles avec une poignée de 40 adhérents qui faisaient vivre la structure. Ça commençait à devenir une structure un peu complexe pour être géré par un simple conseil, enfin un conseil d'administration. Parce qu'il y avait tout ce volet économique hein, où là, on était confronté à vraiment une structure de petite entreprise. Et donc, c'était un peu lourd à gérer, le fait aussi de prendre un peu de recul sur le fond, de s'investir dans d'autres domaines que l'économique, sensibiliser les gens autour de projets du bio dans le DIWA. Et là, l'effort, ce n'était pas suffisant parce que trop consacré sur l'économie. Donc, à partir de là, dès l'instant où la SIC a été créée, voilà, on a un recrutement de poste de directeur qui fait le lien avec tous les éléments de cette structure-là.
Vous êtes en ce moment en train de changer de mode de gouvernance ?
En fait, on a changé de mode de gouvernance il y a déjà 2 ans officiellement. Mais dans les faits, c'est un changement qui est en train de se mettre en place maintenant. La Carline, c'est une dynamique collective qui a une 20aine d'années entre des consommateurs, des producteurs locaux et puis des salariés, qui était au départ sous forme associative et dont l'objet est la vente et la valorisation de produits bio locaux. Et ensuite, le deuxième objet, c'est aussi le développement de la production en bio paysanne locale, avec une grosse attention sur des questions sociales. Et puis la sensibilisation aux thématiques du bio, du local, de la relocalisation des productions. Donc au niveau du mode de gouvernance, oui, on a fait le choix il y a quelques années, il y a 2-3 ans de cela, de passer d'une structure associative à une structure coopérative société anonyme. L'objet principal de ce changement-là, au-delà des questions juridiques, c'est d'arriver à avoir un mode de relation plus clair entre les consommateurs, les producteurs, les salariés. SIC, ça veut dire société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça regroupe 3 types de décideurs différents, des salariés, des producteurs, des consommateurs, qui se mettent autour de la table et qui essayent, en se mettant autour de la table, de dépasser des enjeux individuels pour arriver à des enjeux collectifs et partagés. C'est une forme de pacte social pour voir d'un côté les consommateurs qui souhaitent avoir des produits bio de bonne qualité avec des bonnes conditions sociales de production, mais pas trop chères, des producteurs qui ont des produits à écouler pour vivre de leur métier, des salariés qui sont là aussi pour vivre de leur boulot, qui ont aussi un mot à dire sur la marge de sa construction et la répartition de la valeur ajoutée.
Tu as parlé d'une SIC, hein. Simon Ducha qui disait qu'ils fonctionnaient en SCOP. Est-ce que tu peux nous donner un peu la différence entre SIC et SCOP ?
Déjà, on appartient au même type de mouvement, c'est-à-dire qu'on est dans le mouvement coopératif et dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est quand même 2 points communs extrêmement forts, ce qui fait qu'avec le Tchaï, on a évidemment des liens assez étroits, y compris de manière très régulière dans la gestion des appros. Après, une SCOP, c'est une coopérative entre salariés. Et une SIC, c'est entre des points de vue différents. Donc nous, entre consommateurs, producteurs, salariés, ça veut dire qu'on doit être au point de convergence de 3 types d'acteurs différents. Alors qu'une SCOP, elle a un seul type de point de vue à prendre en compte, quoi.
Tu as parlé de faire en sorte que les consommateurs, les producteurs et les distributeurs se rassemblent entre eux pour discuter de leurs intérêts en commun. Est-ce que ça se passe dans les faits, ça ?
Dans les faits, on arrive à le faire, nous, en conseil d'administration, facilement, c'est-à-dire dans un petit cercle. Et là, on est en train de mettre en place le fonctionnement SIC avec l'ensemble des sociétaires. Donc, ce qui n'est pas forcément sans difficulté, parce qu'il y a forcément des points de vue, des fois, qui sont un peu différents, des expressions qui peuvent paraître divergentes entre des points de vue de producteurs et des points de vue de consommateurs. On arrive à faire la synthèse assez facilement dans un CA qui est composé d'une 15aine de personnes. Après, il faut qu'on arrive à faire la synthèse et l'expression des différents points de vue au sein des 250 sociétaires qui composent la SIC. Ça, c'est un peu le chantier de l'année à venir, puis des années suivantes.
Et donc, les distributeurs sont donc impliqués dans la gouvernance de la SIC ?
À part égale avec les consommateurs et les producteurs, oui.
J'essaie d'abandonner la langue de bois. Est-ce que dans les faits, ça se passe ? Parce que tout à l'heure, un petit peu hors antenne, tu disais que vous n'aviez pas de réunion avec les consommateurs, par exemple.
Avec les consommateurs, on en a quelques-unes quand même. Par contre, le collège salarié, pour l'instant, il est faiblement présent. On part d'une structure qui était sous forme associative avec des salariés militants essentiellement, à une structure qui se recompose avec aussi des salariés qui ont une fibre professionnelle au-delà du militantisme et du coup qui peuvent aussi avoir des attentes différentes sur des questions salariales. Donc le point de vue salarial sur la question de la répartition de la valeur ajoutée que génère l'entreprise, c'est un point de vue qui va être croissant.
Et pour les distributeurs, alors on va peut-être se retourner vers Mélanie, qu'est-ce qui pousse un maraîcher de vouloir travailler avec une SCOP ?
Je parle pour Pierre et moi, au niveau éthique, ça nous intéresse plus de travailler avec une société coopérative parce qu'on n'est pas dans le circuit du capitalisme, en tout cas dans notre vie quotidienne. Donc quand on produit des légumes, on a envie de les vendre de manière coopérative aussi. On fait des réunions justement entre producteurs où on se rejoint avec, avec les gérants de la Carline et on discute, donc on arrive à discuter des prix et on essaye de trouver des terrains d'entente pour que nous on ait un prix qui nous convienne en tant que producteurs et que ça puisse convenir aussi aux consommateurs et que ça convienne aussi au niveau de la gérance du magasin. Donc c'est jamais très simple, mais au moins il y a une discussion d'ouverte et c'est en ça que la coopération est importante quoi, pour nous.
Avec une marge de manœuvre de la part de la Carline, c'est-à-dire qu'ils entendent vos arguments?
Oui. On essaye.
Parce qu'il y a des gens qui se targuent de concertation et qui
oui, mais là, le but, c'est de s'entendre et on trouve un terrain d'entente.
Mélanie, tu parlais de réunions que tu avais avec la Carline en tant que producteur pour fixer les prix. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont induits par ce type de collaboration avec la Carline?
Dans la mesure où on fait des réunions et on s'entend tous entre maraîchers pour fournir des légumes, nous, on n'est pas en concurrence entre nous déjà. Et on va discuter pour l'année à venir qui c'est qui fournit quel légume. Et du coup, ça nous permet d'être tous en coopération et d'être tous d'accord sur le fonctionnement.
Après, c'est vrai que la Carline, quand elle réunit les maraîchers autour d'une table pour programmer l'approvisionnement, elle a aussi un point de vue en tant que développeur. C'est-à-dire que nous, on a un rôle à jouer en matière de développement local sur une dimension assez humble, mais sur le DIY, on a un rôle à jouer, qu'on essaye de jouer. Ça veut dire que quand on organise, nous, notre approvisionnement du magasin, concrètement, par exemple, on s'est refusé l'an dernier à repasser sur un système où on n'avait qu'un seul maraîcher qui approvisionnait la Carline en principal. On a redispatché ça sur 4 à 6 maraîchers locaux de manière équilibrée et à peu près égalitaire, enfin au mieux qu'on pouvait. Et ça, c'est un point de vue de développement qui est posé derrière. Et ça c'est aussi une traduction assez concrète, en fait, d'un esprit SIC, d'une démarche collective qui veut impacter sur son territoire parce que c'est un pacte local. Et donc, du coup, dans la relation qu'on a avec les producteurs, eh ben, on essaye d'avoir une relation qui impulse un développement derrière, qui impulse un développement à peu près équitable. Et ça veut dire qu'on a un point de vue sur des difficultés que peut traverser le maraîchage dans le DIY aujourd'hui, ce qui est une production difficile sur des terrains difficiles, dans des contextes socio-économiques qui sont aussi difficiles ici. Et donc, on essaye de changer les choses concrètement.
Sûrement, on parlait d'un compétiteur qui arrivait, à savoir la vie claire. Est-ce que ça...
Ça, c'est un petit peu l'intérêt de l'arrivée de la concurrence de la vie claire sur Die. On est dans une expérience très pratique de mise en concurrence dans le même champ économique qui est la mise en marché de produits bio. Entre un modèle capitalistique très classique, avec une enseigne nationalement connue qui a environ 300 magasins en France, donc quelque chose qui pèse quand même relativement lourd, qui a aussi un peu de bouteille, et une structure complètement alternative qui en fait essaye de traduire dans le champ de l'économie une certaine vision de l'éthique et de son rôle et d'une gouvernance locale et du rôle qu'elle peut avoir en tant qu'acteur du territoire. Voilà, ça c'est un côté hyper stimulant parce que du coup il y a un projet capitalistique très classique dont l'objet principal est de dégager du profit sur un marché qui est analysé comme un marché porteur de manière classique, un potentiel d'achat relativement important sur le DIY, et puis un modèle alternatif qui est complètement ancré sur le territoire, qui donne un autre sens au produit qu'un sens économique, qui leur donne aussi des sens symboliques importants et notamment un sens sur le type de développement, en fait la manière qu'il y a eu de produire ces produits alimentaires. C'est le lien avec le producteur local, sa capacité à vivre sur un territoire qui a priori est quand même plutôt difficile, et dans le cas d'une SIC qui n'a pas vocation à dégager du profit, mais à réinvestir ses excédents dans le développement local. Donc là, c'est la partie très stimulante et très intéressante de cette mise en concurrence-là, parce qu'on est vraiment sur le même champ, mais sur deux modèles, j'allais dire, de société qui sont radicalement différents.
Et ces deux modèles de société peuvent-ils coexister?
Il y en a un qui supplantera l'autre à un moment ou à un autre, donc l'avenir nous le dira. Sur le DIY, il n'y a pas la place pour les deux structures commerciales, ça c'est une évidence, on est sur un bassin de consommation trop restreint. Après voilà, je pense que l'avenir le dira, les différentes crises qu'on a actuellement au niveau mondial, elles montrent relativement bien les difficultés et l'impasse du modèle classique au niveau capitaliste. Et donc, il y a à inventer quelque chose d'autre. Ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter sur le terrain et d'innover sur des expériences très pratiques et très concrètes et petites. Et nous, c'est ce qu'on fait à notre échelle. On participe à notre échelle à cette innovation-là, sachant qu'on n'est pas la seule. Des SIC qui font de la vente de produits bio dans l'alimentaire, il y en a d'autres en France. Il y en a une petite trentaine, 3 sur la région. Donc, c'est des choses qui sont aussi amenées plus tard à prendre du sens en se mettant en lien et en construisant du coup ensemble. Ça, c'est une autre étape.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa. Bon, on va couper un peu le jingle. Dernière ligne droite ensemble, Alain Cantarutti, de l'espace social et culturel du Diwa. Alors, un petit peu le mot de la fin, là, notamment, la Carline a abordé ce troisième volet qui était l'économie sociale et solidaire. Parce que tu nous avais annoncé trois volets tout à l'heure, il y en a eu deux. Et donc, ce troisième.
Le troisième, c'est qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, par définition, n'est pas délocalisable. Enfin, ils ont parlé de développement du territoire, de développement local, etc. Mais effectivement, la Carline, c'est bien un projet qui est porté par des Diwa dans le Diwa. On ne peut pas la faire à Lyon, on peut faire autre chose à Lyon. Ce projet-là et ces emplois-là et ce projet économique-là, il est bien lié au territoire. C'est la même chose pour le centre social, même chose pour le Chaiwala, etc. Et ça, c'est quand même un des pieds importants du...
Donc c'est qu'il y a perte de cette notion capitaliste libérale pour quelque chose qui, en fait, fonctionne à un endroit, mais si ça s'arrête, ça s'arrêtera à cet endroit-là. On ne va pas vendre cette marque ni distribuer...
Bah oui, contrairement effectivement à des grandes chaînes de magasins qu'on va implanter de façon opportune dans un endroit ou un autre parce qu'on estime qu'il y a un marché. Donc on a cette porte d'entrée-là, quel profit ça va générer sur le territoire. Ici, on est sur une porte d'entrée qui est effectivement radicalement différente. Donc ce n'est pas les mêmes motivations... capitalistique ou libéral qui vont prévaloir, c'est plutôt des gens d'un territoire qui ensemble veulent agir ensemble sur le développement de leur territoire. Et voilà, c'est pas la même porte d'entrée. J'irais jusqu'à dire, si on peut se permettre de rêver un peu, mais en même temps je suis pas convaincu, Gilles Chabanais disait tout à l'heure dans le petit reportage là sur la Carline qu'effectivement on voit bien au niveau mondial que le modèle est plus, enfin le modèle libéral.
L'histoire actuelle en tout cas nous le montre qu'il y a un problème avec.
Voilà, qu'il y a d'énormes problèmes là-dessus. Il y a d'énormes problèmes, on le voit bien. Ben, il me semble moi que dans les communautés sociales et solidaires, il y a une alternative, une vraie. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est économique. La Carline aujourd'hui, le Chaiwala, eh ben, ma foi, créer des emplois, rapporte des sous. Et donc, cette dimension-là, elle existe. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne redistribuent pas l'argent aux actionnaires. Voilà, c'est un des soucis, on le voit bien dans la crise actuelle au niveau de l'économie mondiale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne génèrent pas des sous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des modèles économiques qui sont performants. Il y a une gouvernance très partagée. C'est local. Donc, on a peut-être là, de façon assez concrète, un certain nombre d'ingrédients de ce que pourrait être une économie au service de l'homme, alors qu'on voit bien la déviance dans laquelle on est globalement au niveau mondial, d'une économie qui a servi l'homme. Et voilà, ce qui se passe aujourd'hui, elle le montre bien. On a là des micro-exemples de deux projets économiques qui vraiment mettent l'humain au centre, le territoire, les gens d'un territoire au centre. Je crois qu'il y a... Et mine de rien, c'est déjà une sacrée force. Au niveau national, juste deux chiffres, mais je crois que c'est quand même assez incroyable. Il faut en avoir conscience. L'économie sociale et solidaire, on dit au niveau national, donc tout confondu, mutuelle, association, coopérative, représente environ 10% des emplois. Chiffre assez bien calculé au niveau national.
Quasi égal avec le taux de chômage, d'ailleurs.
Donc
c'est un poids.
Voilà. Donc c'est un poids, en tout cas, considérable. Il y a les artisans sont regroupés au niveau national et disent première entreprise de France. Les communes sociales pourraient revendiquer certainement le même statut de première entreprise de France. Voilà. Elle n'est peut-être pas encore assez bien identifiée, les réseaux ne sont peut-être pas encore assez efficaces au niveau national pour peser aussi dans le discours politique et dans les médias et pour faire comprendre aux gens le rôle. Je voulais juste dire qu'a priori, il y a un certain nombre de chiffres qui sont encore à vérifier, mais la tendance est à peu près ça, c'est que sur la vallée de la Drôme, la Biovallée, le nombre d'emplois générés par l'économie sociale et solidaire serait plus proche des 20%. Donc ça veut dire quand même un emploi sur cinq dans la Biovallée est un emploi de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est effectivement quelque chose qui me semble être fondamental, on le sait peu. Voilà, quand on parle d'économie, on parle bien souvent, on pense aux entreprises, on pense
au plus visible,
et puis celles qu'on connaît traditionnellement. Voilà, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire représente un emploi sur cinq dans la Biovallée, avec tous les différents concepts qu'on a pu aborder là, enfin, sur quoi elle est fondée, c'est certainement un des éléments d'avenir d'un territoire plus humain, plus démocratique, plus durable. Je crois que là, il y a vraiment tout un pan de l'économie qu'il faut choyer et qu'il faut essayer de développer dans les années à venir.
Ce sera le mot de la fin. Merci Alain d'avoir participé avec nous à cette émission.
Avec grande joie.
Et puis, merci. Je remercie également Louis pour son reportage auprès de la Carline. Évidemment, tous les participants à ce reportage. Et puis, je remercie également Ludo à la programmation musicale. Biotope, donc un rendez-vous mensuel à retrouver chaque dernier jeudi de chaque mois en partenariat avec BioVallée et Radio Saint-Ferréol. À bientôt.
Un programme soutenu par BioVallée.